C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Cela fait un petit bout de temps que nous n'avons pas parlé ni d'invention ni de sport dans l'histoire avec un grand I. Qu'à cela ne tienne, tentons de faire d'une pierre deux coups aujourd'hui. Étudions la mystérieuse invention du cricket, les débuts de ce sport très pratiqué dans les pays anglo-saxons et les anciennes colonies de l'Empire britannique mobilisent encore aujourd'hui les historiens et les historiennes qui cherchent à trouver qui en est à l'origine. Une piste, le roi Édouard II d'Angleterre qui vers 1300 après J.C. pratique, je cite, le craig et d'autres jeux. Le craig est-il ancêtre du cricket ? Pour en savoir plus, voici la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Alexandre Belin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Émilie de la Volière.
Bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors pour commencer cette émission, peut-on rappeler à nos auditeurs et auditrices comment se déroule une partie de cricket ? Ou de cricket, avec l'accent anglais.
Bien. C'est une question un peu compliquée, ça.
Bien sûr, à ne pas confondre avec le croquet français. Le cricket se joue avec des sortes d'épuisettes. Épuisettes anglaises du XIIIe siècle. Et donc, l'objectif, c'est de se passer des balles avec ces épuisettes et de marquer des buts, donc avec un certain nombre de joueurs sur le terrain, un nombre qui a évolué au fil des siècles.
Oui.
Donc, on en est maintenant à 21 joueurs. Ça a commencé à 12 et ça a augmenté au fur et à mesure des années. Maintenant, on est à 21 joueurs.
Il y a des années où c'est redescendu quand même.
Il y a une année où c'est redescendu.
Ouais. 21 joueurs par équipe.
Par équipe, bien sûr.
21 joueurs par équipe, des épuisettes. Combien d'épuisettes sur le terrain ?
Une par joueur.
Une par joueur.
Ouais, 21 épuisettes.
Drôle de question, ça, Guillaume.
Bah écoutez, je suis vraiment pas familier de...
Vous avez jamais vu de match de cricket ?
Non, vous m'avez jamais emmené voir un match à vous.
Est-ce que vous avez déjà vu le cricket de l'animal ?
Le cricket animal, oui, ça, tout à fait.
Parce qu'il y a plus de similitudes qu'on pourrait penser. Dans le mouvement des pattes, ça fait vraiment penser au mouvement des épuisettes sur le terrain.
Le bruit aussi est assez similaire.
Ouais.
Vous savez, quand on agite très vite les épuisettes sur le terrain, ça fait un peu ce bruit-là.
Mais vous viendrez avec nous, on y va régulièrement avec Émilie et Alexandre.
Il y a des matchs en France
pas à loin. Nantes, il y a des matchs à Nantes.
Il y a des matchs à Nantes.
Tout à fait. Il y a la Ligue Nantaise de cricket qui est pas mal. Hein.
Qui est en D2.
Ouais, ils sont quoi, 8e de la D2
8e de la D2.
C'est honorable.
Mais ils remontent. Hein.
Ok, bonne nouvelle. Donc, le rendez-vous est pris pour le prochain match de cricket. On parlait du nombre de joueurs qui a augmenté de 12 à 21 au cours de l'histoire. Est-ce qu'on sait dire pourquoi ?
La démographie. Plus d'habitants sur Terre, plus de joueurs de cricket.
Ça fait partie des règles du jeu d'avoir une proportion de joueurs représentative au nombre de personnes sur Terre à l'instant T ?
Alors,
représentative au nombre de joueurs sur Terre à l'instant T, mais aussi représentative des populations, des ethnicités qui composent le pays.
Il faut savoir que le cricket est arrivé avec aussi les droits civiques. Et donc, voilà, on était sur une époque où on voulait vraiment représenter le peuple. Et donc, les différents rois, on parlait des origines du cricket avec l'arrivée des démocraties, etc., qui a permis justement de plus en plus au peuple de jouer au cricket. Donc, d'où l'augmentation du nombre de joueurs sur le terrain.
C'est ça, on veut faire jouer tout le monde.
Ça se joue d'ailleurs à 10 hommes, 11 femmes. On essaie d'avoir une représentation des sexualités, des religions, des couleurs de peau sur le terrain. Donc, Alors, c'est pas facile du coup de monter une équipe de cricket parce qu'il faut. C'est une règle impérative.
Oui, ça fait vraiment partie du sport. Est-ce que cette règle-là fait partie des tout débuts ? Enfin, est-ce que quand le jeu a été inventé, il a été inventé avec cette règle-là en 1300 après Jésus-Christ ?
Avec le craig, donc, avec le craig d'Édouard II dont vous parliez, Guillaume.
Exactement.
Non, justement, à l'inverse, le craig d'Édouard II était très, très, très fermé. Très
raciste.
Oui, très raciste.
On est en 1300, après tout, donc on n'est pas encore dans les évolutions qu'on a actuellement.
Non.
Donc c'était essentiellement masculin. Et uniquement les résidents du royaume à l'époque.
Hein. Ah bah oui, oui, non, c'était très fermé. Les colons britanniques y jouaient, interdiction d'y jouer pour les populations locales. Et c'est pour ça que, justement, dans l'Empire britannique, on décide de créer le cricket.
Un peu comme un contre-coup, comme un effet miroir pour se l'approprier, jeu.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on a du mal à en retracer son origine. C'est parce que c'est un jeu qui vient du peuple, en fait, à la base. C'est une contre-culture qui émanait avec des slogans en 1400 qui a émané du slogan Craig is racist, Craig is sexist, qui parle, voilà, qui le peuple se soulevait contre le Craig et donc a créé son jeu en forme de contre-culture.
Très bien. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu ? On a parlé des épuisettes. C'est vrai que c'est pas courant quand même de faire un jeu sur un terrain avec des épuisettes, surtout quand on a autant que de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres points particuliers qui ont été potentiellement créés par Édouard II, si on comprend bien l'histoire ?
Alors, on a retrouvé des traces hein, de ce qui était utilisé avant les épuisettes, et c'était des choses qui étaient plutôt comme des grandes pelles.
Oui.
Et en fait, comme on le disait, donc le Craig, c'était des grandes pelles. Et comme ça a été récupéré par la population, une population qui était aussi, à l'époque, qui vivait près des côtes. Hein, c'est vraiment un jeu qui arrivait près des côtes. Et donc, les joueurs ont pris ce qu'ils avaient. Et puis, on s'est vite rendu compte que, finalement, l'épuisette qui existait à l'époque, hein, pour pêcher, évidemment, était quelque chose de beaucoup plus maniable et de beaucoup plus agréable que la pelle, hein, qui reste un outil assez lourd. Et donc, c'est comme ça, finalement, que l'épuisette est passée des plages, des fonds marins, au criquet, voilà, dans la forme qu'il a actuellement.
Est-ce que c'était pas d'ailleurs dangereux d'organiser un jeu avec 12 personnes par équipe qui courent avec une pelle en l'air comme ça
Si, il y a eu des problèmes.
Il y a eu des blessés, mais c'est vrai que l'épuisette a eu aussi cet effet-là d'avoir moins de blessés parmi les joueurs et joueuses.
Puis ça a complètement changé la nature du sport. Avec les pelles, on était beaucoup plus sur de la percussion. Donc la balle partait souvent hors du terrain. Là, avec l'épuisette, vraiment, donc je vous laisse imaginer, hein, la balle vient dans l'épuisette. Après, il faut réussir avec le revers de la main à taper dans l'épuisette de la personne qui possède la balle pour essayer de la faire sortir de l'épuisette et pour pouvoir soi-même l'attraper avec son épuisette. C'est beaucoup plus, borné. Le terrain, d'ailleurs, la taille du terrain a diminué avec l'utilisation de l'épuisette aussi.
Ce qui est assez pratique, d'ailleurs, pour en faire un peu partout.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
On a besoin de moins d'espace pour organiser un match.
Relativement paradoxal aussi, hein, puisque donc, la taille du terrain a diminué alors même que le nombre de joueurs augmente.
En effet. On n'a pas expliqué aux auditeurs et aux auditrices comment est-ce qu'on marque des points. Parce qu'on se doute que la balle atterrit dans l'épuisette. Mais après, comment est-ce qu'on comptabilise les points ?
Il y a des buts.
Il y a des buts de part et d'autre du terrain où on peut marquer des points en les lançant via son épuisette. Et après, il y a des petites règles spéciales. Si on arrive à faire des figures en équipe. Ou si on se passe la balle plusieurs fois en faisant des choses jolies, on peut marquer un ou deux points.
Le patinage artistique au XVIIe siècle s'est beaucoup inspiré du cricket hein, à l'époque, notamment le triple axel, qui à l'origine est une forme qui donne beaucoup, beaucoup de points au cricket.
Il y avait des juges à une époque au cricket.
Et là maintenant, plus besoin ?
Non, maintenant non.
D'accord.
Tout est fait avec de l'intelligence artificielle et des caméras. C'est un sport qui est devenu très, très...
Qui a toujours été très moderne, en fait.
La VAR au foot, vraiment, c'est pour vous donner un exemple, c'est primitif. Comparé à ce qu'on a au cricket aujourd'hui, tout est automatisé. La moindre faute est automatiquement détectée par un ordinateur qui est relié à plusieurs caméras... plus d'une centaine pour un terrain de cricket homologué.
Deux par joueur à peu près.
Deux
à trois par joueur.
Le cricket a vraiment... Je suis ravie qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un sport qui a toujours été en avance sur son temps. Et je trouve que c'est vraiment important. Et la technologie s'inspire du cricket et vice-versa.
Ça a donné des inventions. On parle souvent du fait que quand une technologie nous arrive, souvent c'est à 10 ans de retard sur ce que les militaires font. Le cricket... apporte beaucoup de nouvelles choses aussi très rapidement. Je pense notamment à, par exemple, le streaming en ligne. Ça vient du cricket.
C'est vrai.
Parce que la Fédération mondiale de cricket avait déjà commencé à faire une plateforme en ligne de vidéo dès les années 2000.
Pour généraliser le sport, hein, puisque comme on le disait, c'est quelque chose de très... le sport qui appartient au peuple, et donc pour que le plus de personnes possible y aient accès, très rapidement, il y a eu des tutos, voilà, comment fabriquer un terrain de cricket, comment utiliser son épuisette, enfin voilà, comment monter son équipe à côté de chez soi, et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui s'est diffusé assez vite, et dont l'armée effectivement se sert.
Très bien, alors le cricket comme sport en avant-garde, on se retrouve juste après la pause musicale.
wonderful. You. Alright. 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 We want to say that you've been so wonderful and it made it especially very. You just made us so happy. I want to thank the cricket for joining in. I want to thank all of the wonderful people I know here for coming. And before we go, we'd like to change and try to do something that you're used to us doing fast. So we'd like to give you our version of it in a slow tempo, only because we recorded it and we haven't been on the charts. Oh boy, that competition. Hey, give me a little vamp. A little vamp. You have nowhere to go, do you? Yeah. Just give me a little vamp. Crickets on the left, crickets on the right. Crickets just singing with me all the night. What can I do? They're too much competition, but I love him. Oh yes, I love him. What do I do? What do I say? I don't care anyway, cause they make this a happy night for me. So sing on, crickets. As long as they sing, we know it's a happy thing. Cause when they stop, that bop is over for me, over for me. So sing on, crickets, sing for me. Come on, crickets, sing with me. I don't care, I'm going on vacation now. You can sing anyway, anyhow, yes. Oh, it's crickets. Yes, those crickets, they sing and they swing with me. They keep wailing. Well, I wonder if they could wail the blue. I wonder if they could do what Dizzy do. I bet they could, I bet they would. Now, I know they should. Well, I'm making this little tune up for you. And when I'm through, somehow the melody we got off there. Well, I guess it's time for me to go now. So sing, swing, sing on, swing on, crickets, sing with me. Cause it's been a ball, what a ball, singing and keep swinging. I was singing and swinging with the cricket.
De Cricket Song Live chanté par Ella Fitzgerald en 1964 et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. Donc on a à peu près expliqué ce que c'est que le cricket comme sport et comme on va dire son impact d'un point de vue culturel aujourd'hui au moins. Est-ce qu'on peut revenir à ses tout débuts et à cette fameuse piste Édouard II qui serait à l'origine de ce sport comment aurait-il inventé ce sport et que serait-il devenu après son règne ?
Lorsqu'Édouard II invente son sport, faut bien comprendre que le sport donc, est réservé, comme on l'a dit, aux hommes blancs. C'est très ségrégé comme sport, c'est dans l'entre-soi. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Jane Down qui se prend d'amour pour le sport. Elle adore le regarder, elle adore voir les pelles s'agiter au-dessus des 12 joueurs et elle se dit « pourquoi pas moi ?». Et donc, un matin, elle met un bonnet pour cacher ses cheveux et sa longue chevelure, et elle se fait passer pour un homme qui souhaite jouer au sport, et donc elle intègre l'équipe de Manchester, la petite ville là où elle habite, et elle commence à jouer au Craig. Et elle adore ça. Elle adore le Craig.
Et donc, c'est potentiellement la première femme dans l'histoire qui a joué à ce jeu.
Tout à fait.
Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe après ?
Après, ce qui se passe, c'est que cette Jane Down se révèle être très très forte, et devient très vite la capitaine des Manchester Wolves, l'équipe locale de Manchester, qui évolue en D1 anglaise à cette époque, qui était une très très bonne équipe, pas une équipe de haut de tableau, mais une très bonne équipe. Mais quand Jane Down devient capitaine, les Manchester Wolves gagnent le championnat dès la première année d'inclusion de Jane Down.
Donc elle a un impact très significatif sur son équipe et sur ses performances. Elle a réussi à vraiment ne pas se faire démasquer.
Elle s'appelle Jack Down dans l'équipe. Et effectivement, elle arrive à ne pas se faire démasquer. Effectivement, c'est un exploit, hein, parce que quand on... C'est un beau camouflage qu'elle fait pendant près de 3 ans, 3 saisons régulières consécutives, jusqu'à se faire démasquer.
En 1312.
En 1312, pendant le match qui oppose les Manchester Wolves aux London... London Cowboys, effectivement. Mmh.
Et donc, bah oui, il remporte le championnat cette année-là, mais le capitaine des London Cowboys avait une intuition, comme quoi il y avait quelque chose de louche chez Jack, et décide de retirer son bonnet, et laissant apparaître la longue chevelure de Jack Down, qui était en réalité Jane Down.
Donc, elle est démasquée, on est en 1312, ça va avoir un impact énorme, je suppose, sur le jeu. Qu'est-ce qui se passe après? Comment réagit le public?
Alors, eh bien, Jane est emprisonnée, évidemment, puisque c'était interdit. Mais évidemment, également, le public s'était pris d'affection pour elle. Donc, il y a une vraie réaction populaire à cette époque. Mais les règles sont les règles. Et Jane, elle est emprisonnée pour une durée indéterminée. Il y a un énorme procès qui a lieu pour définir si elle doit même être décapitée ou non, parce qu'on est vraiment sur un affront royal.
Vu que c'est Édouard II qui a créé le Craig, dans les règles, c'est écrit uniquement pour les messieurs. Et donc, c'est un affront royal. Le raz-de-marée populaire d'amour pour Jane Down et son jeu au Craig lui fait éviter cette peine maximale. Et elle sera donc emprisonnée en 1313, après son procès, le 6 avril 1313, à la prison de Manchester. Et s'ensuit plus de 2 ans d'emprisonnement pour Jane Down.
Et c'est un peu en face de la prison de Manchester, en réalité, qu'on retrouve les premières parties de cricket, parce qu'en fait, c'est tous les amoureux de Jane Down, tous ses supporters qui venaient jouer, donc de tous les genres, de toutes les sexualités, de toutes les races, venaient jouer en bas de la prison de Manchester et manifestait avec des pelles en l'air et tapait contre les murs de la prison pour manifester son soutien à Jane Down.
Vous allez voir la prison de Manchester aujourd'hui, vous pouvez encore voir les coups de pelle sur la façade est de la prison, qui près des barreaux de la cellule de Jane Down. Effectivement, tous les
sur la droite notamment, il y a trois, quatre coups comme ça qu'on voit bien.
Il y a un tag magnifique d'ailleurs maintenant avec à l'effigie de Jane Down à cet endroit-là, mais qui vient s'incorporer avec tous les coups de pelle, c'est magnifique. Si vous y allez, n'hésitez pas, si vous passez à Manchester.
Très bien, donc là on a Jane Down qui est emprisonnée. Vous avez donné un petit suspense en parlant simplement de 2 ans alors qu'elle a été jugée pour de la perpétuité. Comment réagit son équipe à, on dit, une équipe de sport qui perd son capitaine, sa capitaine? C'est pas anodin.
Haute trahison pour eux. Vraiment, on est sur une équipe qui pensait avoir un capitaine homme. Et je rappelle qu'on est au tout début du XIVe siècle. Donc, on n'est pas encore dans une période complètement féministe. Le fait que ce soit une femme, c'est vraiment un coup de poignard. D'ailleurs, l'équipe est complètement démantelée à ce moment-là. Je crois que pendant un an ou deux, les joueurs sont tellement perturbés qu'ils refusent de jouer jusqu'à ce qu'ils finissent par élire un nouveau capitaine quelques années plus tard. C'est vraiment un gros, gros coup de pelle dans le milieu du sport. Et en même temps, c'est presque une des premières montées du féminisme dans le sport, puisqu'on voit que finalement, ça pose aussi la question de la place de la femme. Enfin, voilà, c'est une autre question, mais l'équipe, et le roi d'ailleurs, on le disait, subit ça vraiment comme un affront, puisque c'est son sport, et qu'en fait, c'était une femme. Donc pendant 2 ans, c'est un peu compliqué. Et puis après, l'équipe, finalement, repart avec un nouveau capitaine. Les choses sont petit à petit oubliées. Voilà, malheureusement, Jane revient maintenant grâce à des travaux récents, mais à l'époque, finalement, ils ont réussi à faire taire son nom au bout de quelques années.
Et ça marquera également le début de la fin du Craig, en fait, qui deviendra un autre sport rival du cricket, le croquet.
Le croquet. Alors là, il va falloir qu'on explique la distinction entre les deux sports et à partir de quel moment est-ce qu'on voit... Donc, si je comprends bien, en tant que présentateur ici, ce que je comprends, c'est qu'au début, on avait un seul sport, qui était le Craig.
Le Craig, tout à fait.
Et il y a eu scission.
Il y a eu scission, tout à fait.
Il y a eu scission.
Tout à fait. Le Craig est entaché avec cet amour pour Jane Down du peuple anglais, le roi Édouard II décide de complètement changer les règles du Craig pour faire oublier et taire le nom de Jane Down, puisque les matchs de Craig sont devenus fades sans la maîtrise et la technique de Jane Down. Et donc, on décide de faire table rase des règles de l'époque et de passer un peu de complètement changer les règles et de passer la balle maintenant
plus
près du sol, c'est ça. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous voyez le croquet moderne, hein, vaguement, ça ressemble à ça. Il faut faire passer une balle dans des anneaux. Voilà, il y a des anneaux qui valent plus que d'autres. Si on fait passer dans l'anneau central, on a gagné. Voilà, c'est un sport.
Est-ce qu'on a toujours besoin d'une pelle dans ce sport ?
La pelle a été remplacée par le marteau, comme le filet a été remplacé par, comme le filet a remplacé la pelle au criquet.
Mm-hmm. On est sur quelque chose de beaucoup moins cardio. Hein.
Non, c'est
beaucoup plus calme.
Oui, c'est chiant, on peut le dire. C'est chiant.
C'est chiant. C'est beaucoup joué en maison de retraite. Voilà. Si vous cherchez du croquet.
Et ça va avec le vieillissement d'Edouard II aussi, qu'à près de 70 ans au moment où il change les règles, ça se sent, ça se sent, je pense.
Et puis on ne veut pas trop non plus échauffer la foule, hein. Donc plus le sport est chiant.
Oui, plus la foule reste calme.
Voilà.
Tout à fait.
Mais il y a eu quand même eu des beaux matchs, moi je pense à l'EHPAD de East London contre la maison de retraite du nord de Liverpool, ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'était un match un peu intéressant.
Oui, oui.
Ça dure combien de temps environ un match de croquet ?
6h30, 7h.
Mmh. Ah, ça fait une bonne journée, quoi. Un bon samedi ou un bon dimanche.
Il y a des siestes toutes les heures.
Il y a une pause goûtée
Il y a une pause goûtée, vu que les matchs commencent tous à 14h. On a une pause goûtée à 16h, effectivement. Mmh. Et on prend le thé.
On termine à 20h30 et on va se coucher.
Très bien. Donc le croquet qui change complètement la face du sport anglais à l'époque, si je comprends bien. Néanmoins, le criquet se lance à ce moment-là dans une forme de contre-culture sportive par le peuple.
Tout à fait. Et on a des grands noms de joueuses, hein, d'ailleurs, de criquet. Hein.
Ah oui. Hélène McDonough qui va être un peu la nouvelle Jane Down qui va commencer à jouer sur les terrains de Liverpool, justement. C'est interdit, effectivement. Le cricket est totalement interdit dès 1315, au moment où les premières pseudo-règles commencent à faire leur apparition comme étant officielles et une sorte de ligue commence à se monter, et donc des ligues clandestines, des matchs clandestins se jouent, et donc effectivement, Hélène McDonough est une des joueuses emblématiques. Et on le disait, ça a émergé un peu partout dans les colonies aussi. Quand on entend parler du cas de Jane Down, et on décide aussi de s'y mettre. Et justement, c'est aussi pour ça que les épuisettes commencent à faire leur apparition un peu partout aussi, effectivement.
Et on voit le sport ressurgir à différents endroits où on a besoin de lui, tel un super-héros qui veille sur le monde. Quand il y a eu des périodes d'injustice dans le monde, dans l'histoire, il y a eu le cricket qui est réapparu. Je pense à l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, qui a été mis fin en partie grâce au cricket et grâce au soulèvement du peuple via ce sport.
Nelson Mandela était un formidable joueur de cricket.
Oui,
il faut le savoir.
Remarquable.
Donc c'est un sport presque magique, finalement, s'il amène la paix et la prospérité dans les démocraties, enfin du moins. Dans les pays.
On pourrait se demander, hein, si tout le monde joue au cricket sur Terre, est-ce qu'on s'en porterait pas un peu mieux ?
Je pense que je peux le dire en notre nom. Je pense qu'en tant qu'historien, on ne croit pas à la magie. En revanche, on croit à la force de l'humain et la force des convictions. Et le cricket, c'est vraiment ça. C'est l'espoir, finalement.
Ouais.
Voilà, c'est l'espoir, et donc c'est des soulèvements, c'est le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué et qui marque encore l'histoire aujourd'hui et qui est très fort.
Est-ce qu'on pourrait se permettre de dire aujourd'hui, au micro de Prune Radio, est-ce qu'on pourrait se permettre de dire que le cricket est peut-être la plus belle chose que l'humanité ait jamais créée ?
Moi, je pense que oui, c'est certain. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve le cricket, l'animal, sur le drapeau de plusieurs mouvements qui se veuillent pacifiques et inclusifs. Ça a failli remplacer la colombe blanche en termes de symbole de paix, cet animal. Donc, moi, je dis oui, je suis d'accord avec vous, Alexandre, je suis d'accord avec vous, Émilie, c'est un sport formidable.
Vive le cricket.
Vive le cricket.
Vive le cricket.
Vive le cricket, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à l'invention du cricket. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.